avec l'Observatoire sociopolitique diocésain. Monseigneur Michel Aupetit, archevêque émérite de Paris, qui est très actif sur les réseaux sociaux, vient de publier ce 26 octobre un tweet ainsi formulé « La loi morale naturelle est la capacité de la raison humaine à découvrir le bien. Elle est la conscience commune de l'humanité. » Victor Hugo disait d'elle « La conscience de l'homme, c'est la pensée de Dieu. Le droit positif particulier aux États ne peut avoir priorité sur elle. » En quoi consiste cette loi naturelle dont il est ici question, Olivier Drapé ?
Alors il faut d'abord se rappeler que l'Église enseigne qu'il existe un ordre naturel des choses telles qu'elles ont été créées. La famille, par exemple, n'est pas une invention humaine. C'est l'union durable d'un homme et d'une femme fondamentalement égaux mais différents et complémentaires, d'où la procréation et l'éducation des enfants qui en découlent. Et bien entendu, l'Église croit à l'existence d'une nature humaine. L'homme est très divers, hein, selon les cultures et les peuples, mais enfin, c'est toujours un homme doué de mémoire, d'intelligence et de volonté, un homme libre et responsable de ses actes auxquels on a affaire. Il y a vraiment une nature humaine. Alors, à partir de là, s'il fallait donner une définition forcément un peu sommaire de la loi naturelle, qui est une notion très importante, un peu passée de mode, mais néanmoins toujours pertinente, on pourrait dire que la loi naturelle est la loi morale qui correspond aux exigences de la nature humaine. En quelque sorte, c'est le mode d'emploi de la nature humaine. Et on peut se référer au catéchisme de l'Église catholique, mais on peut se référer à toute la pensée de l'Église depuis des siècles, hein, depuis l'origine. Je citerai d'ailleurs saint Thomas d'Aquin qui disait « La loi naturelle n'est rien d'autre que la lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu. Par elle, nous connaissons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. » Léon XIII, dans une encyclique de 1888, « La loi naturelle est écrite et gravée dans l'âme de tous et de chacun des hommes, parce qu'elle est la raison humaine ordonnant de bien faire et interdisant de pécher. » Jean-Paul II, en 93, « Veritatis splendor », la splendeur de la vérité, « La loi naturelle n'est rien d'autre que la lumière de l'intelligence infusée en nous par Dieu. Grâce à elle, nous connaissons ce que nous devons accomplir et ce que nous devons éviter. » Et puis le catéchisme de l'Église catholique qui synthétise un petit peu tout cet enseignement.
Le concept de loi naturelle ne va pourtant pas de soi. Il peut être compris de bien des façons différentes. Certains philosophes, voire certains théologiens, le remettent en question.
Alors c'est vrai que cette question peut être l'occasion de dissiper certains malentendus qui tiennent à la définition qu'on donne du mot nature. La nature à laquelle nous nous référons, c'est-à-dire la nature humaine, telle que je l'ai évoquée au tout début, ne se confond évidemment pas, par exemple, avec la conception que certains penseurs pouvaient en avoir au XVIIe siècle. Je pense à Hobbes, Thomas Hobbes, dans un livre assez connu qui s'appelle « Le Léviathan » qui disait « L'homme est un loup pour l'homme ». Alors c'est évidemment pas la conception de la nature que l'Église, à laquelle l'Église adhère ou qu'elle défend, ni même d'ailleurs concernant l'état de nature et le mythe du bon sauvage cher à Jean-Jacques Rousseau, hein, selon lequel l'homme naît parfaitement libre et innocent et c'est la société qu'il corrompt. De même que la loi naturelle dont nous parlons n'est pas du tout la loi du plus fort, la loi de la jungle, contrairement à ce que laissait entendre le philosophe Luc Ferry il y a quelques jours dans une chronique du Figaro. Je précise encore que la loi naturelle n'est pas non plus une sorte de soumission aveugle aux lois physiques, ni même d'ailleurs aux lois biologiques de la nature. En fait, il ne s'agit pas d'une loi qui va s'imposer de l'extérieur arbitrairement à la volonté des hommes, puisqu'au contraire, c'est une loi de raison qui fait appel au discernement de chacun. Ça n'est pas une loi extérieure à l'homme, une contrainte qui lui serait en quelque sorte imposée d'extérieur, puisqu'elle est la loi enracinée dans notre nature. Ceci étant dit, l'Église reconnaît que la conscience de l'homme est, alors non pas détruite, comme Luther le disait, mais blessée et obscurcie par ce qu'on appelle en théologie le péché originel et ses conséquences, qui sont les passions, les mauvaises habitudes, toutes sortes de conditionnements qu'on peut subir, si bien que la révélation est venue au secours de la raison défaillante de l'homme, en promulguant le décalogue, les 10 commandements qui viennent d'une certaine manière éclairer, affermir, préciser, confirmer notre connaissance, notre compréhension de cette loi morale naturelle. On pourrait ajouter d'ailleurs qu'au-delà de la connaissance et de la compréhension de la loi naturelle, la grâce qui vient de Dieu nous est absolument indispensable pour nous conformer autant que possible à cette loi naturelle dans notre conduite et notre comportement.
Quel est le contenu de cette loi naturelle ?
Alors on a précisé au départ que le principe premier était faire le bien, éviter le mal. Mais le contenu de la loi naturelle, c'est plus précisément, comme je viens de l'évoquer en parlant du décalogue, les 10 commandements. Les principaux préceptes de la loi naturelle, finalement, sont résumés dans le décalogue. Alors, on ne va pas rappeler tous les articles du décalogue, mais enfin, ceux qui concernent en tout cas plus particulièrement les rapports entre les hommes. Quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère, et tout ce qui en découle. Le cinquième, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Le sixième, tu ne voleras pas. Le septième, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Le huitième, bien sûr, ont des implications directes. Voilà, ce sont effectivement des principes fondamentaux, aussi bien pour les individus que pour les sociétés.
Vous citez beaucoup le catéchisme et l'enseignement de l'Église. Cela signifie-t-il que le concept de loi naturelle est confessionnel et ne concerne en définitive que les chrétiens ?
Alors, c'est vrai que l'Église accorde une importance très grande à cette loi morale naturelle et au décalogue, tout simplement parce que elle enseigne que le salut des âmes dépend, j'allais dire, pour reprendre la formule consacrée, de la foi et des mœurs, c'est-à-dire de la croyance, bien sûr, en Jésus-Christ et du comportement, de la conduite morale de chacun. Donc c'est extrêmement important. Mais il faut tout de même préciser que la loi naturelle et les grands principes qui en découlent sont universel, c'est une de leurs principales caractéristiques rappelées par le catéchisme de l'Église catholique, qui dit « présente dans le cœur de chaque homme et établie par la raison, la loi naturelle est universelle en ses préceptes et son autorité s'étend à tous les hommes ». Elle est en effet, cette loi naturelle, accessible à la raison humaine, c'est la loi naturelle commune à tous les hommes, quelle que soit leur origine, leur culture, leur religion ou leur absence de religion. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les encycliques sociales, telles que par exemple Laudato Si du pape François sur l'écologie, s'adressent non pas seulement aux fidèles catholiques, mais en fait à tous les hommes de bonne volonté, selon la formule consacrée, qu'ils soient chrétiens ou non, qu'ils soient croyants ou non, même, pourvu que, bien entendu, ils aient le sens ou le souci du vrai, du beau et du bien. Cela signifie que la loi naturelle ne doit pas être perçue comme étant destinée uniquement aux catholiques ou aux chrétiens, mais elle s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Elle est universelle et elle est également immuable et permanente, c'est-à-dire que dans le temps, cette loi naturelle, comme le dit le catéchisme, à travers les variations de l'histoire, est immuable et permanente. Le catéchisme ajoute, au numéro 1958, « Même si l'on renie jusqu'à ses principes, on ne peut pas la détruire ni l'enlever du cœur de l'homme. Toujours, elle ressurgit dans la vie des individus et des sociétés. » Et de fait, il faut constater que de nombreux philosophes de l'Antiquité, grecs ou latines, ont eu une perception assez proche de la nôtre de la loi naturelle. Quelques exemples assez connus. Antigone de Sophocle, c'est une œuvre du 5e siècle avant Jésus-Christ, et on sait que Antigone se dresse face au roi Créon qui refuse de donner une sépulture à son frère Polynice, au frère d'Antigone, et Antigone se dresse face au roi Créon en proclamant « Je n'ai pas pensé que tes décrets avaient le pouvoir d'autoriser un mortel à fouler aux pieds les lois non écrites et immuables des dieux ». Alors ces lois non écrites et immuables, c'est la définition même finalement, comme on l'évoquait au début, de ce que nous appelons la loi naturelle. Puisqu'on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, le serment d'Hippocrate, dans sa version d'origine, est tout à fait conforme à ce que nous appelons la loi naturelle, notamment sur le plan du respect de la vie, le refus de l'euthanasie et de l'avortement, on dirait aujourd'hui. Puisqu'il est précisé, je ne remettrai à personne une drogue mortelle si on me la demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion, de même, je ne remettrai pas non plus à une femme un pessaire abortif, etc., etc. Autre exemple, Cicéron, cité d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église catholique, donc philosophe du 1er siècle avant notre ère, écrivait « Il existe une vraie loi, c'est la droite raison, elle est conforme à la nature répandue chez tous les hommes, elle est immuable et éternelle. C'est un sacrilège de la remplacer par une loi contraire, il est interdit de n'en pas appliquer une seule disposition, quant à l'abroger entièrement, personne n'en a la possibilité. »
Olivier Drapet, quelles sont les implications sociales et politiques de la loi naturelle ?
Alors je vais faire très vite, mais d'un point de vue catholique, cette loi s'impose non seulement aux personnes, mais à l'ensemble de la société, aux États, à la communauté internationale. Jean-Paul II, dans différentes encycliques, au moins Centesimus Annus et je crois Veritatis Splendor, rappelle les 10 commandements constituent les règles premières de toute vie sociale. Et ce terme social est important, ça signifie que le plus solide fondement des droits et des devoirs de l'homme, ce sont les 10 commandements. Le catéchisme de l'Église catholique ne s'y trompe pas. Le paragraphe 2070 rappelle « Les 10 commandements mettent en lumière les devoirs essentiels et donc indirectement les droits fondamentaux de la personne humaine ». Et c'est vrai, ce que j'évoquais tout à l'heure le montre clairement. « Tu ne tueras pas », c'est le droit à la vie. Tu ne voleras pas », c'est le droit légitime, dans certaines limites bien entendu, à la propriété, etc. etc. Donc ce décalogue et cette loi naturelle sont le fondement des droits de l'homme et le fondement finalement d'une législation vraiment respectueuse des droits fondamentaux de la personne humaine. C'est ce qu'il me paraissait important de souligner.
Merci beaucoup Olivier Drapet, et dans un mois pour une nouvelle chronique de l'Observatoire sociopolitique diocésain. Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92.